Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Alors que vient de s'achever le Cybermois, organisé chaque année en octobre par le dispositif national cybermalveillance.gouv.fr dans le but de promouvoir la cybersécurité, et alors que le mois de novembre est pour sa part marqué par la date anniversaire de la Convention de Budapest, adoptée le 23 novembre 2001 pour lutter contre la cybercriminalité, eh bien voilà une belle occasion de dédier une émission à ces questions cyber. Pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir deux invités de choix. Michel Séjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en droit à l'Université Sorbonne Paris Nord, enseignant-chercheur en droit de la cybersécurité, directeur scientifique du Code de la cybersécurité aux éditions Dalloz. Avec vous, Marc Polman, bonjour.
Oui, bonsoir.
Vous êtes psychologue cognitif de formation avec un parcours qui vous a progressivement conduit vers le monde cyber, puisque vous êtes le président de l'association Point de Contact, dont on parlera. Également le fondateur de la société Aetheos, qui a développé un outil d'informatique cognitive très précieux pour la lutte contre la cybercriminalité. Et plus globalement, désormais, vous travaillez en tant que réserviste à l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale.
Exact.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cet échange. Cybercriminalité et cybersécurité, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission des temps électriques. Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia.
Ok.
Et celle-là, je vous la donne.
Ok, bah
voilà.
Si vous voulez.
Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym, parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP, parce qu'elle va à l'école juste à côté.
Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin, là.
Vous voyez où elle est, l'école? L'avenue Victor Hugo?
Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h.
D'accord.
Et elle adore ça. Ah bah, je peux vous en donner plusieurs, hein. Vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Hop. Bah, allez-y, hein. je vous les donne.
Sans le savoir, c'est ce que vous faites en exposant vos enfants sur les réseaux. Les prédateurs sexuels vous disent merci. Phrase choc, vidéo tournée en caméra cachée dans la rue face à des passants un peu interloqués devant cette maman enthousiaste donnant sans retenue des photos de sa fillette à des inconnus. Voilà la dernière campagne de sensibilisation de l'association Caméléon pour alerter sur les risques du partage de photos d'enfants sur les réseaux sociaux, les mineurs étant aujourd'hui des cibles privilégiées de la cybercriminalité. Mais le phénomène est évidemment bien plus vaste et cette criminalité numérique plurielle. Elle a pour spécificité d'utiliser les réseaux, les systèmes d'information comme moyen de réaliser une infraction ou même de les avoir directement pour cible. Hôpital, entreprise, État, célébrité, simple particulier, la cybercriminalité n'épargne désormais aucun profil de victime. Souvent mêlée aux crimes organisés dans une variété de secteurs en expansion, exploitation sexuelle, trafic de drogue, contrebande, terrorisme, elle représente un véritable enjeu pour nos autorités judiciaires, mais aussi pour les gouvernements, qui doivent répondre de manière adéquate et efficace à ce phénomène dans un environnement technologique en perpétuelle évolution. Au premier plan, souvent des catalyseurs de ces phénomènes cyber, le rôle des réseaux sociaux et des plateformes d'échange. L'opacité de la toile, les ramifications des réseaux complexifient la traque des infractions cyber par les autorités et ralentissent les investigations nécessaires. À l'occasion symbolique du mois anniversaire de la Convention de Budapest, adoptée le 23 novembre 2001, poursuivant l'objectif d'apporter une politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cybercrime, on revient dans un instant avec nos invités sur la lutte contre ce phénomène complexe.
Top.
On vient d'entendre un extrait de la bande originale de la série française Nudes, jetant une lumière crue sur les conséquences destructrices de la diffusion, en ligne et non consentie, d'images intimes. Les médias et le cinéma s'emparent du phénomène, un phénomène donc bien plus vaste que cet exemple-là, et ça participe sans doute d'un élan général visant à enrayer la cybercriminalité et à mieux informer les internautes de la cible privilégiée qu'ils représentent désormais. Ce phénomène complexe, on va essayer d'en prendre la mesure avec vous, Michel Séjean, Marc Polman. Nos usages, mes usages aussi d'Internet sont autant de failles finalement qui permettent aux cybercriminels de s'y engager. Alors une émission ensemble serait évidemment pas suffisante pour aborder toutes les infractions, tous les modes opératoires appartenant désormais à la cybercriminalité, mais c'est pas le but finalement de cet échange. Le but, ce serait plutôt de revenir sur quelques exemples choisis marquant ces derniers mois, ces dernières semaines, pour essayer d'aller chercher votre regard spécifique à chacun sur ces phénomènes et ces cas dont on parlera. Alors pour commencer, pour rester un instant sur la question des infractions en ligne, facilitées par les réseaux, je me tourne vers vous Marc Polman. Cyberharcèlement, multiple atteinte à l'image, pédopornographie, la liste est longue. Vous êtes, je l'ai dit, le fondateur et PDG d'Aeteos, qui est une entreprise française qui s'est spécialisée dans la création de logiciels. Et après plusieurs années en recherche et en développement, notamment dans le domaine des neurosciences, de la psychologie, de la linguistique, vous compléterez tout ça. Vous avez créé une solution d'informatique cognitive qui est baptisée Percipion pour aider les forces de l'ordre et les acteurs de l'Internet à créer cet espace numérique plus sûr pour permettre de révéler un certain nombre de menaces, des phénomènes pédopornographiques de façon un peu proactive. Alors, est-ce que vous pourriez... En partant de cet outil, peut-être essayer de nous faire un bilan de ces menaces à l'heure actuelle. On en est où ? Qu'est-ce qu'on observe ?
Alors, les menaces qu'on observe aujourd'hui, elles sont en constante augmentation. La diversité des crimes que l'on observe, elle est... Il n'y a aujourd'hui aucune limite aux crimes qui sont perpétrés dans le cyberespace. On va retrouver à la fois des activités qui sont liées au trafic de drogue, à la fois des activités qui sont liées au trafic d'armes, au terrorisme, aux menaces sur des personnes, des sociétés, des États. On va retrouver les aspects pédocriminels, on va retrouver des crimes qui sont liés à des actes sexuels, on va retrouver du trafic d'êtres humains. Aucun thème n'est épargné.
Et alors, cet outil que vous avez déployé pour aider donc les forces de l'ordre, dans quelle mesure il vient en soutien de leur travail ? Il a plusieurs facettes. Ce que j'ai pu comprendre, c'est on a un diamant qu'on a façonné là. Alors, quelles sont ces facettes ?
Percipion est un produit logiciel d'informatique cognitive. Donc, c'est très proche de ce que pourrait faire une intelligence artificielle. L'objectif de Percipion, c'est d'être capable de se représenter un contexte. Donc là, on est en train de parler de contexte criminel. Donc Percipion est capable de se représenter les contextes que je viens de préciter, de comprendre le langage naturel, c'est-à-dire d'identifier dans des textes des termes qui sont en lien avec ces cadres de référence, par exemple en lien avec la drogue, en lien avec la pédocriminalité, en lien avec le trafic d'êtres humains, si je prends trois exemples. Et ensuite, de traiter ça de manière extrêmement rapide, en quelques millisecondes, pour pouvoir apporter des informations à des enquêteurs. Donc, si je prends un exemple de comment aujourd'hui Percipion est utilisé, lorsque des criminels sont interpellés, on va saisir leur matériel, leur smartphone, leur ordinateur. Mmh. Et puis, via la justice... ce matériel, le contenu de ce matériel est considéré comme un scellé et ces scellés sont analysés. Donc il y a des logiciels qui permettent de faire l'extraction des données qui se trouvent sur le téléphone, mais une fois que les données sont extraites, l'enquêteur, souvent, devant lui, il a 2000, 3000, 4000 pages de texte à lire pour pouvoir identifier des traces de crime, des évidences comme quoi, effectivement, la personne, dans ses messages, a communiqué des informations qui sont criminelles. Et là, Percipion va être capable, en quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures, s'il y a énormément de pages, mais en 2-3 heures au maximum, c'est fait, va être capable d'identifier à l'intérieur des messages qui ont été écrits par le criminel, des traces de crime, et de les montrer à l'enquêteur. Donc l'enquêteur a un travail qui est simplifié, puisqu'il a devant lui, en fait, toutes les traces de crime qui ont été relevées sur le matériel.
Et alors pour approfondir un peu l'exemple que vous prenez, comment on le forme cet outil, comment on l'entraîne à reconnaître ces éléments de langage, parce que donc c'est là-dessus que vous avez beaucoup travaillé pour affiner sa finesse de détection.
Donc on s'est basé tout d'abord sur des concepts en psychologie clinique pour comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des informations sur la manière dont les personnes pensent. La seconde chose, c'est que pour certains cadres de référence, comme par exemple celui de la pédocriminalité, on a étudié tout un tas de manuels, tout un tas de documents qui sont en rapport avec le sujet pour pouvoir avoir cette expertise et la mettre dans ce logiciel. Et puis ensuite, on est aussi en lien avec les forces de l'ordre, notamment avec les forces de gendarmerie, qui vont nous donner de la sémantique précise qui est utilisée par les criminels. Mmh. Et cette sémantique, on la met dans le logiciel. Comme ça, on est capable de détecter tout un florilège de choses.
Michel Séjour, est-ce que vous voulez réagir à ces
explications ? En fait, ces outils sont indispensables. Et on se rend compte, nous, en tant que juristes, que le fait de concevoir des textes de droit et de les adopter, de les promulguer, de les faire entrer en vigueur. Enfin, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Alors que dans la culture française, il reste encore une pensée magique par rapport aux juristes. On va promulguer une loi et ça ira mieux. En fait, les outils qui sont fondés sur d'autres sciences sociales, je pense l'outil dont Marc Polman parle, est à la fois un savoir-faire en psychologie cognitive et en informatique et de haut niveau. C'est quelque chose qui vient compléter et mettre en œuvre, même donner vie finalement aux textes juridiques qui sont promulgués. Et dont on a absolument besoin. Et aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que si on arrive à gagner même des toutes petites victoires, déjà, c'est bien. Mais à chaque fois, c'est parce que plusieurs disciplines se mettent ensemble pour pouvoir avancer, non pas en silo, chacun dans son tunnel, mais en cumulant, en conjuguant des savoir-faire de très nombreuses disciplines. Ça marche à chaque fois. Voilà. Pour le moment... Moi, en tout cas, c'est une prise de conscience de juriste que j'ai, c'est que seul, je ne sers à rien, quoi. Donc, très clairement, c'est une bonne nouvelle pour tout l'écosystème, et en particulier celui des juristes.
Et alors, avec vous, vous allez servir à nous expliquer une autre actualité, de ces derniers mois, en fait, de la rentrée. On est fin août. L'actualité cyber, à ce moment-là, c'est aussi l'arrestation et l'inculpation assez retentissante de Pavel Durov, qui est le cofondateur et patron de la messagerie Telegram, accusé de ne pas avoir répondu aux injonctions de la justice française, placé donc à ce moment-là en examen. Alors avant de parler plus spécifiquement des enjeux procéduraux de cette affaire, déjà, Telegram, on change complètement de sujet, c'est quoi Telegram ?
Telegram, c'est une plateforme de messagerie et de réseaux sociaux en même temps, qui est assez unique en son genre. Parce que les fonctionnalités qu'elle a sont très développées, notamment des fonctionnalités de communication dans un seul sens et pour des nombres quasiment illimités de personnes. Donc typiquement, le cas d'usage, c'est une chaîne de commerce à laquelle des centaines de milliers de personnes peuvent s'inscrire. Et la personne qui ouvre la chaîne de commerce, elle est la seule à pouvoir mettre des messages dedans. Et en fait, ça va donner énormément de flexibilité et d'instantanéité à l'ouverture d'une place de commerce en ligne par rapport à ouvrir un site internet où il faut trouver du graphisme et des choses comme ça. Et donc, c'est une messagerie. Elle s'est fait connaître comme messagerie au départ. Elle c'est présenté... En fait, il y a beaucoup de branding. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a la création d'une marque et d'une réputation qui ne correspondent pas du tout à la qualité informatique de la plateforme. Et la particularité, c'est que un énorme nombre de criminels ont cru à la marque sans connaître la pauvreté technique de cette application. Ils ont cru à la marque parce que le fondateur de la marque a dit « Vous savez, s'il y a des terroristes qui utilisent Telegram, ce qui a été le cas pour les attentats du Bataclan, les terroristes, c'est des gens intelligents. S'ils utilisent Telegram, c'est que c'est la plus sécurisée du monde. » Et en fait, là, on était dans le domaine de la croyance. Les gens ont commencé à dire « Ah bah ouais, mais c'est vrai ce qu'il dit. Terroristes, c'est pas n'importe qui, ils ont dû faire attention. Donc nous aussi, on va utiliser Telegram. » Et puis, ils auraient pu s'arrêter à cette croyance-là. Puis finalement, cette croyance aurait pu s'éteindre. Mais à un moment donné, le FSB, donc les renseignements russes, a exigé de la part de Pavel Durov qu'il communique des informations particulières dans des dossiers en cours. Et Pavel Durov a refusé ça. Et en refusant, ben, il a aussi quitté la Russie. Et là, la marque s'est considérablement renforcée parce que les gens dans le monde se sont dit bah, « S'il ne communique pas des informations au FSB, il ne les communiquera à personne. » Donc nous, on peut parler de ce qu'on veut, on peut commercer de la manière qu'on veut, il ne va rien nous arriver puisque même au FSB, il est capable de résister. Donc voilà, c'est cette plateforme qui finalement a donné un réseau de commerce illicite
gigantesque. Avec un caractère assez multidimensionnel. Alors concrètement, au plan juridique, de quoi on l'accuse, Pavel Durov ?
Pavel Durov, il est accusé de 12 chefs d'accusation qui sont à la fois des chefs à titre principal et des chefs de complicité aussi. Principalement, on l'accuse, cette fois-ci à titre individuel, de blanchiment de crimes ou délits en bande organisée. Blanchiment pourquoi ? Parce que lui, il dit « j'ai pas de patrimoine, j'ai pas d'argent, j'ai qu'une pièce de 25 cents sur moi », je crois que c'est ça qu'il dit. Et tout mon patrimoine, c'est des cryptoactifs, mais sinon, j'ai pas d'argent, je possède rien, je n'ai aucune maison, je n'ai rien. Et le parquet de Paris aimerait bien savoir comment il a pu faire fortune alors qu'il a 25 cents dans sa poche. Mais à part ça, il y a son rôle dans Telegram. Et cette fois-ci, c'est en tant que gérant de cette plateforme, fondateur de cette plateforme, qu'il est accusé. Et de quoi est-ce qu'il est accusé ? En fait, il est accusé de ne pas coopérer avec les autorités françaises alors qu'il en a l'obligation au titre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui est une loi de 2004, telle qu'elle a en tout cas été modifiée en 2021. Et que dit cette loi ? En fait, quand les autorités publiques pointent du doigt certaines chaînes, certains fils de discussion qui sont illicites, parce que, par exemple, il y a l'échange de matériel pédopornographique, eh bien, la plateforme a l'obligation de collaborer avec les autorités en fournissant toutes les données qu'elle peut fournir. Et qu'est-ce qu'elle peut fournir ? Des métadonnées. Et Pavel Durov a dit « Non, je ne ferai pas ça ». Ça, c'est le deuxième grand chef d'accusation. Et en fait, une fois qu'il a été mis en examen, au terme d'une enquête préliminaire puis information judiciaire, eh bien là, il s'est mis à coopérer. Pas beaucoup, mais un peu. Et un peu avec chaque pays qui avait des requêtes en souffrance, ou plutôt des réquisitions en souffrance. Et au point que quand les enquêteurs, le parquet J3 est arrivé à Eurojust il y a quelques semaines en réunion de coopération avec...
Le parquet J3 qui est spécialisé sur les questions cyber.
Exactement,
le parquet
J3 qui fait partie de la Junalco, qui est spécialisé en cybercriminalité. Quand ils sont arrivés à la réunion Eurojust, les journaux rapportent que les Français ont été applaudis par les autres parquets, disant « grâce à vous, ils commencent enfin ». À nous envoyer des éléments pour nos enquêtes, alors qu'avant, ils refusaient de coopérer.
Alors, puisqu'on vous avait glissé le mot du parquet J3 et de cette section spécialisée en cyber, ça permet une transition quand même vers une actualité cyber de ces dernières semaines, dont on parlera moins parce qu'elle est sur un champ qu'on explorera dans une autre émission sur les infractions purement informatiques, mais c'est l'affaire qui a concerné les fuites de données de l'opérateur Free. C'est une cybercriminalité d'un autre type parce que elle touche ici à des questions liées à la protection des systèmes informatiques. Mais en quelques mots, ça ravive une question qui vous est chère et qui voilà, que vous allez pouvoir nous exposer, qui porte en elle la cybersécurité. Et c'est là-dessus que je voudrais avoir votre regard, parce que les données personnelles dont on a parlé avant, qui ne sont pas que des données, là, les IBAN dans la question de Free notamment, mais ça peut être des données personnelles d'une toute autre nature. On parlait des photos, on parlait d'autres divulgations précédemment. Ces données-là, elles deviennent en fait une monnaie d'échange pour tout un tas de transactions clandestines en ligne. Et que ce soit donc des IBAN, des photos, n'importe quoi. Et finalement, la question est plus générale. Comment on se protège de ces atteintes malveillantes au plan de la cybersécurité ?
Là, il faut reconnaître que parfois, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre en tant que particulier, on est mis en échec. C'est-à-dire, comment on se protège ? J'ai envie de vous dire, qui est on ? Si c'est un particulier, ben moi je me serais fait avoir si j'étais allé chez Free, parce que ben Free, pour ouvrir ma ligne, je suis obligé de leur donner mon IBAN et je suis obligé de leur donner toutes mes informations personnelles qui sont de nature à me permettre d'avoir une ligne téléphonique chez eux. Donc moi je peux pas me protéger dans cette affaire en tant que particulier. Maintenant, Free n'a pas seulement l'option de se protéger, il en a l'obligation impérieuse, parce qu'il se protège pas seulement lui, il protège aussi toutes les données de ses clients et de ses abonnés. Et Free, en fait, est en plus un statut particulier parce que c'est un fournisseur d'accès à Internet, donc les règles sont encore plus contraignantes pour Free. Free est censé avoir mis en place des processus internes de type technique, donc des paramètres informatiques à régler pour que le système soit sécurisé, et de type organisationnel, c'est-à-dire avoir nommé des personnes à des postes qui permettent d'assurer la cybersécurité, avoir fait des exercices de gestion de crise, avoir fait des simulations de cyberattaque, avoir mis en place en fait tout ce qu'on appelle une compliance, c'est-à-dire des processus internes et des moyens de contrôle de ces processus pour atteindre ce que Marianne Frison-Roche appelle un but monumental. En l'occurrence, le but monumental de la compliance en cybersécurité, c'est atteindre une cybersécurité, donc confidentialité, intégrité, disponibilité des données, des systèmes et des réseaux. Et donc Free est censé avoir fait ça. Maintenant, quand Free ne le fait pas, elle est victime de la cyberattaque, mais on lui reproche aussi d'avoir été victime. Donc c'est la double peine pour elle. Un, elle se fait attaquer, et deux, on lui reproche de s'être fait attaquer. Mais c'est normal, elle a de très nombreuses obligations. Simplement, ça va poser la question ultimement de la soutenabilité de ces obligations pour des organisations. Si même une organisation comme Free, de sa taille et de sa capacité administrative et technique, n'arrive pas à mettre en place toutes les obligations de compliance, ben, on va commencer à s'interroger. Parce que que dire de l'ETI ou de la PME, sur qui pèsent tous ces textes énormes, DSA, DMA, DGA, DA,
oui, toute cette réglementation européenne,
NIS2, DORA, etc. Comment les mettre en place si même Free n'arrive pas visiblement à les mettre en place de manière efficace? Et donc là, on peut avoir une législation qui est très belle, très sensée, mais si elle n'est pas raisonnable du point de vue de la soutenabilité et des épaules des gens qui doivent la mettre en œuvre, on a un gros problème. Mais j'en suis pas encore à dire ça. Il faut d'abord comprendre pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné chez Free. Et c'est pas forcément pour la raison que j'ai indiquée, ça peut être très bien pour un maillon faible humain qui aurait très bien pu être évitable.
Alors sur cette question cybersécurité, alors en tant que non-juriste finalement particulier, concerné, Marc Pohlmann, est-ce que vous voulez réagir ou avec un regard extérieur, peut-être le regard du réserviste, celui que vous souhaitez prendre ?
En fait, c'est assez simple. On a décidé à un moment d'utiliser une informatique qui était, je vais l'appeler comme ça pour simplifier mon discours, dans le cloud. À partir de là, les données qui avant étaient sur mon poste de travail, j'ai commencé à les partager sur un réseau social. Parce que pour m'inscrire à ce réseau social, je dois mettre mon numéro de téléphone, par exemple, mon nom, mon prénom, mon adresse mail. Et puis, c'est tellement plus simple via un formulaire sur une page web, de communiquer certaines informations. Par exemple, mes informations bancaires à Free, à SFR, à Orange, peu importe. Et donc, les années se succédant, il y a beaucoup de nouveaux services qui se sont ouverts et qui, pour simplifier ma gestion, plutôt que de passer par le bon vieux courrier postal que je recevais dans ma boîte aux lettres, qui parfois a été piqué, qui parfois a été mouillé, bref. Et le temps de traitement était un peu plus long, parce que parfois, j'envoyais une réponse avec mon stylo, mais c'était pas lisible, donc il y avait des erreurs. Bref, on a commencé à tout digitaliser, on a commencé à tout mettre dans l'espace numérique, et puis... Voilà, donc ces données, elles sont disponibles dans un endroit que je ne gère plus. Ces bases de données ne sont pas forcément en France. Elles peuvent être quelque part en Europe, elles peuvent être en Asie du Sud-Est, elles peuvent être... Pourquoi je nomme l'Asie du Sud-Est ? Parce que c'est pas cher d'aller faire héberger des données là-bas. Elles peuvent être aux États-Unis. Bref, je ne sais pas où sont mes données. Je ne sais pas où sont les backups de mes données. Je ne sais pas qui y accède.
En même temps, donc, on est tributaire de ça. On veut s'inscrire, s'abonner. Quel autre...
On s'est rendu tributaire de ça.
Voilà. Quelle autre voie
moi, si je prends ma casquette de chef d'entreprise, mis à part un service mail, parce que je ne peux pas faire autrement, j'ai aucun service dans le cloud. Et pourtant, on est en 2024 et pourtant, je fais de l'informatique toute la journée. Je n'utilise pas le cloud.
Et pourtant, actuellement, là, maintenant, en novembre 2024, c'est la frénésie pour aller vers le cloud. On n'a jamais eu autant de... Enfin, les praticiens disent de « move to cloud », donc c'est-à-dire de migration vers l'informatique en nuage. Jamais autant. Et donc, c'est difficile de l'expliquer parce que la vulnérabilité a pourtant été avérée. Je ne dis pas que je suis anti-cloud parce que ça n'a aucun sens. C'est juste des choix d'entreprise. Et puis, il y a des clouds qui fonctionnent extrêmement bien, dans lesquels les applications... c'est pas seulement du stockage, le cloud, c'est aussi de l'applicatif. Donc, il y a aussi des clouds dans lesquels les applications marcheront mieux que si je fais ça en interne avec une petite machine. Donc, ça justifie quand même beaucoup. Mais c'est pas la panacée, le cloud. C'est pas la solution à tout, vraiment. Et on a beau le savoir, on a beau connaître les vulnérabilités, on a beau savoir que ces vulnérabilités sont pas encore bien corrigées, parce qu'elles sont pas seulement techniques, elles sont aussi organisationnelles. Tout le monde va vers le cloud en ce moment, donc je ne sais pas vers quoi on va, mais ça va être intéressant en tout cas.
Alors on peut aller sur un autre point, on va rebondir sur les zones géographiques que vous évoquiez, et plus globalement, vous avez cité l'Asie du Sud-Est, mais globalement, on est face à un phénomène transnational, et en fait, cette dimension numérique, surtout, ne connaît pas de frontières. Et ça, c'est un sujet pour les services répressifs, parce que quand il faut recueillir de la preuve numérique dans différents États, ça devient complexe. Les moyens traditionnels de coopération judiciaire internationale sont plus forcément la solution adaptée. C'est pas très rapide, c'est difficile pour aller obtenir rapidement des preuves électroniques. Alors, en complément de ce que prévoyait la Convention de Budapest, qui est au cœur de notre émission, eh bien, on a un second protocole additionnel qui est destiné à renforcer la coopération et la divulgation de preuves électroniques. Alors, Michel Séjean, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les grandes lignes de ce texte, de ce que vient proposer finalement ce protocole additionnel en complément de ce que prévoyait la Convention? Pourquoi on a ce texte?
C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec le temps que ce qui manquait, c'était quelque chose qui vienne compléter la coopération entre autorités judiciaires. Et là, maintenant, ce dont on parle avec le second protocole additionnel, qui a été adopté en 2022 et dont l'entrée en vigueur dépendra du nombre d'États qui vont ensuite le ratifier de manière interne, c'est qu'on a besoin d'une coopération directe avec les fournisseurs de services. Pas seulement coopération entre polices, mais une coopération directe avec les fournisseurs de services et les bureaux qui enregistrent les sites Internet en question. Et on avait aussi besoin d'une procédure de coopération immédiate en cas d'urgence, justement pour court-circuiter les délais qui étaient longs. Enfin, on avait besoin de mieux préciser les conditions des enquêtes conjointes pour être certain que les enquêtes conjointes respectent toutes les conditions d'état de droit de chaque qu'une des deux parties à l'enquête conjointe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait et qui a été complété par ce second protocole additionnel. Le principal étant de faire venir les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de services, cette fois-ci directement dans le jeu de cette convention.
Et alors avec ça, est-ce qu'on est suffisamment armé ? En fait, on pose la question et même si vous êtes pas juriste, vous l'avez précisé, Mark Pullman, c'est à vous que je vais la poser cette question parce que les États membres de l'ONU ont, de leur côté, approuvé début août leur premier traité pour lutter contre la cybercriminalité dans le but annoncé de renforcer la coopération internationale, eu égard notamment aux images pédopornographiques ou encore au blanchiment d'argent. Alors, le texte, il a été très vite critiqué par les défenseurs des droits humains, un certain nombre de grandes industries de la tech qui ont alerté contre un outil de surveillance mondiale, notamment en prenant l'exemple, en se disant si la lutte contre la pédopornographie et l'exploitation sexuelle des enfants comme ça fait consensus, on s'accorde sur l'impératif à ça, on peut s'inquiéter d'une criminalisation possible des selfies d'images intimes, de selfies qu'un mineur prendrait lors d'une relation sexuelle consentie. Est-ce que ça, c'est des craintes avérées ou qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est un sujet sur lequel vous travaillez donc, par le biais de l'outil Percipion qu'on a cité, par le biais de vos activités. Qu'est-ce que vous pensez de ces craintes, de ce texte complémentaire qu'on voit jaillir en parallèle, finalement ?
Qu'est-ce qui distingue une image obtenue on va dire, de manière consentie, d'une image, de la même image, hein, mais qui aurait été obtenue de manière non consentie. Je vais donner une réponse qui est très simple, le texte qui l'accompagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on étudie cet univers dans lequel je vais partager avec d'autres du contenu ultra-violent, des scènes de guerre, lorsque je vais partager du contenu à caractère pédocriminel, qui met en scène des bébés, lorsque je partage du contenu qui contient des scènes de viol d'une adulte, voilà, qui est dans une situation de détresse. Systématiquement, c'est ce qu'on a observé hein, en faisant ces études depuis plusieurs années, que le texte qui l'accompagne est porteur d'une sémantique qui permet aux enquêteurs et donc à la justice de relever des traces de crime. Je ne m'exprime pas de la même manière. Et donc, on est capable, si on étudie le contexte dans lequel a été envoyé ce message, de repérer un certain nombre de signaux, notamment des signaux sémantiques, qui vont nous permettre de dire oui, on a bien affaire à un crime et non pas à un échange. Ça, c'est ma première partie de réponse, c'est-à-dire l'étude de l'environnement sémantique de cet envoi. Ensuite, l'une des craintes qui est liée à ce que vous évoquiez, c'est la crainte de l'atteinte à ma liberté d'expression ou à ma vie privée, on va dire ça comme ça. Oui, mais on le fait déjà sur des sujets de terrorisme. On surveille déjà nos réseaux pour des raisons de terrorisme, si jamais on veut attaquer, enfin, si quelqu'un veut attaquer l'État français. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a du trafic de matières radioactives ? Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a du trafic d'organes ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a du trafic d'armes ? Bien sûr qu'une partie de nos réseaux est surveillée. Alors les enfants, si je prends les enfants, c'est pas un thème important ? C'est pas un thème à surveiller ? Lorsque j'emploie des sémantiques qui sont extrêmement précises et liées à des activités pédocriminelles, par exemple des activités de préparation à l'acte, des activités qui seraient liées au fait que j'efface les preuves de l'acte que j'ai pu faire, à des stratégies de piégeage d'enfants. Encore une fois, on utilise une sémantique qui est extrêmement particulière, qui n'a rien à voir avec les mots que l'on pourrait employer de tous les jours. Et donc, avoir un outil qui, sur un smartphone, déconnecté du réseau, sans envoyer des informations à gauche et à droite, permettrait une modération de ces messages. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Et techniquement, c'est possible. J'ai été à Matignon il y a un an et demi pour leur montrer ça. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que bon, ils m'ont pas forcément écouté. Je suis aussi allé au ministère de l'Intérieur. Exactement la même chose. Techniquement, c'est possible. Oui, on respecte la vie privée. Oui, on est capable de détecter ces signaux. C'est pas fait. L'Europe est en retard.
Michel Séjean, est-ce que vous voulez réagir?
C'est plus une réaction de citoyen que de juriste, pour le coup. Mais c'est vrai que ça me consterne de voir, une fois de plus, comment des porteurs de solutions, sur des cas qui sont évidents, n'arrivent pas à se faire entendre. Et c'est comme si, sur cette affaire de pédocriminalité, l'embarras d'en parler au public pour ne pas incommoder les gens et faire surgir dans leur imaginaire des images inconfortables faisait qu'on préférait ne pas en parler. Alors que c'est plus facile de parler de trafic d'armes, parce que l'arme, c'est facile à imaginer pour les gens et ça les gêne pas d'imaginer des armes. Dès qu'on leur propose de parler de nipiocriminalité, ça c'est un terme que j'ai appris récemment en travaillant avec Muriel Thibierge sur la question de la pédocriminalité, et donc c'est la criminalité envers des nourrissons. Enfin, je veux dire,
c'est la tranche d'âge des 0-12 mois.
Incroyable, quoi, qui peuvent même pas parler. Eh ben, parler de ça, c'est pas possible dans le débat public, parce que c'est comme si on avait l'impression qu'on allait créer de l'inconfort chez les gens. Mais on s'en fout de l'inconfort. Ce qu'on veut, c'est protéger les enfants, en fait. Eh ben, ça passe pas, ça perce pas le mur du son. Et c'est d'une tristesse à mourir. Et là, il n'y a aucune solution juridique pour ça.
Je souhaiterais juste, en complément, donner quelques chiffres.
Oui.
Ça va être très rapide. Au niveau global, en 2004, il y avait 450 000 signalisations de crimes à caractère sexuel contre les enfants. 450 000.
En France ?
Dans le monde.
Dans le monde,
ouais. Dans le monde, en 2004. 450 000. En 2022, on est à 88 millions. L'augmentation dans ces quelques années, elle est de presque 20 000%. 20 000% d'augmentation. On n'a rien fait. L'Europe n'a rien fait, ne fait rien, ne met pas en œuvre ces solutions-là. Si je prends les chiffres en France, les chiffres de points de contact,
l'année dernière... Point de contact, on va en parler. Expliquez juste ce qu'est point de contact, parce qu'on ne l'a pas beaucoup cité.
Oui, c'est une association qui protège les citoyens dans l'espace cyber.
Important.
Je vais revenir à point de contact, mais juste deux chiffres. L'année dernière... Au moment où on se parle, en novembre, j'avais 25 000 signalisations liées à ces crimes pédocriminels. Là, j'en ai 30 000. On est un an plus tard, j'ai 20% d'augmentation. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et alors, le rôle là, de cette association dont vous parlez, et vous en êtes le président, son rôle est... effectivement fondamentale dans la surveillance du réseau, dans le fait de tenter de détecter ces comportements infractionnels. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle de Point de Contact, peut-être plus globalement pour,
Bien sûr, donc Point de Contact est une association qui existe depuis 25 ans, 26 ans, dont l'objectif est de protéger l'ensemble des citoyens, les adultes et les enfants, dans le cyberespace. Donc lorsque ces personnes-là rencontrent des situations qui sont inappropriées, sont liées à des images choquantes où on leur a piqué leur intimité ou des choses comme ça, eh bien, elles peuvent se rapprocher de Point de Contact pour signaler que ce contenu est présent sur Internet. Point de Contact va ensuite aider ces citoyens en qualifiant l'infraction et va faire deux choses. La première, c'est rendre compte de l'infraction au service de police et de gendarmerie. La seconde chose, c'est qu'elle va demander le retrait de cette chose qui est inappropriée des plateformes. Donc, par exemple, Point de Contact est en lien avec TikTok, est en lien avec X, est en lien avec Snapchat, etc. Donc, ça permet d'accélérer, en fait, le retrait de ces informations.
Et en lien avec cette idée de contribution, bah, ici du particulier, hein, dans l'aspect signalement, on a une autre dimension d'actualité sur laquelle on peut déboucher pour prolonger et presque finir ces propos avec vous, Michel Séjean. C'est la question du renseignement en source ouverte, l'OSINT, dont on parle actuellement, pour obtenir des éléments de preuve. Il s'agit de quoi en parlant d'OSINT et dans quelle mesure ça peut contribuer à cette lutte contre la cybercriminalité ?
La preuve numérique, c'est vraiment une des preuves les plus importantes aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas un seul procès qui ne dépende pas d'un élément de preuve au format numérique. Et ça, je le tiens de source sûre, puisque la semaine dernière, un gendarme qui était aussi doctorant est devenu docteur, Mathieu Audibert, sur une thèse qu'il a faite sur le recueil de la preuve numérique et la procédure pénale. Et j'ai eu la chance d'être dans son jury de soutenance et donc de lire ses travaux. Et c'est éloquent tout ce qu'il a indiqué sur la preuve numérique et son importance. Mais cette preuve numérique, on ne va pas la trouver en allant fouiller par intrusion dans les mails de quelqu'un. Non, la plupart du temps, on va le trouver par une recherche Google, d'aller chercher des images dans les réseaux sociaux, d'aller chercher des preuves qui sont en source ouverte, c'est-à-dire librement accessibles. Sans intrusion, sans effraction. Voilà. Alors, soit on peut le faire de manière très ponctuelle, en faisant une requête précise, et en allant chercher une image précise, ou une adresse précise, soit on peut le faire de manière massive, en faisant du moissonnage de données avec des robots automatisés qui vont aller moissonner des tas et des tas de données, puis les stocker dans un endroit qu'on appelle un lac de données ou un puits de données. Il y a plein de terminologies imagées pour dire ça. Et une fois qu'on a ces puits de données, eh bien, on va essayer d'aller chercher l'empreinte numérique d'une personne, par exemple pour aller, avant de faire un recrutement sur une personne sensible, une chef d'entreprise, un chef d'entreprise, on va essayer de regarder si cette personne a des empreintes numériques un peu problématiques en ligne, si on a des photos de cette personne un peu compromettantes, avec des déguisements bizarres ou des choses comme ça. Ça, c'est de l'OSINT, en fait. Cet OSINT-là, il souffre actuellement, non pas d'un déficit de réglementation, parce qu'il y a des textes de droit spécial, mais il manque un texte de droit commun qui permette de donner les principes communs à toute investigation numérique en source ouverte. Et quand je dis investigation numérique, je ne parle pas de la police seulement, hein, je parle de nous, quand on fait une requête pour chercher quelque chose en ligne, donc l'investigation numérique. Et en fait, il manque ce droit commun de l'investigation numérique en source ouverte. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec un groupe de travail qui dépend de l'Alliance pour la confiance numérique d'un côté, de la chaire cyber de l'Institut des hautes études de défense nationale de l'autre. Donc on est missionné, on est plusieurs praticiens et universitaires à travailler pour essayer de dégager des principes communs qui vont nous donner un droit commun de la source ouverte. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on fait de la recherche en source ouverte? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on fait de la recherche en source ouverte? Et une fois qu'on aura ce régime de droit commun, eh bien, chaque secteur pourra essayer de demander sa dérogation au droit commun en argumentant et en essayant d'avoir son propre régime, parce qu'il y a des spécificités pour
chaque secteur. Oui, ben, on suppose qu'il y a des questions qui tiennent à la loyauté dans ces recherches. Exactement. À l'obtention de données licites, illicites.
Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à dire clairement que l'OSINT, donc Open Source Intelligence, c'est-à-dire l'investigation numérique en source ouverte, soit libre. Ça doit être le principe. Libre, hormis les cas où la loi dit expressément le contraire. Et une fois qu'on aurait dit ça, ce qui est quand même logique, puisque quand on dit OSINT, c'est open source, donc open, c'est ouvert. Donc, la base, c'est que ce soit ouvert. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, notre tâche, en tant qu'universitaire, par exemple, en tant que praticien, en tant que délégation professionnelle de telle et telle filière, c'est de proposer des lignes rouges qui soient clairement inscrites dans la loi pour que tous les opérateurs, tout l'écosystème de l'OSINT puisse se positionner, connaître ses droits, connaître ses obligations et donc œuvrer avec une bonne sécurité juridique, faire du profit ou pas, peu importe, c'est pas un problème. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait plus de sécurité juridique et on ne peut pas en avoir tant qu'on n'a pas un droit commun de l'OSINT qui nous permettra ensuite d'avoir des preuves numériques sur lesquelles on puisse se fonder en toute fiabilité, ou des preuves numériques qu'on ne puisse pas utiliser parce qu'elles sont au-delà de la ligne rouge.
Pour le coup, le particulier, mais aussi force de l'ordre.
Bien sûr, voilà, bien sûr. Chacune avec des conditions différentes, parce qu'on ne demande pas que la règle soit la même pour un particulier et pour un service de renseignement, c'est évident.
Marc Pullman.
Oui, je souhaiterais juste compléter, réagir. L'objectif, c'est d'obtenir une preuve. Comme quoi, par exemple, sur un site, il y a une activité illégale. Ça peut être un objectif de l'OSINT. Mmh. On a eu une question comme ça il y a un an et demi, deux ans. Il y avait un forum, un site, pour ne pas le nommer, qui s'appelait Europe Écologie Les Brins. Aujourd'hui, il est fermé. C'était un site d'extrémistes, on va dire ça comme ça. Le problème de ces forums et de ces sites, c'est que, si je prends cet exemple, il y avait 86 000 pages web. Si je suis un être humain et que je dois regarder parmi ces 86 000 pages lesquelles contiennent des traces de crimes, je vais y passer un sacré temps. Là, on a aujourd'hui des technologies qui permettent non seulement de donner juste l'URL du site et l'outil va aller le décortiquer pour trouver toutes les pages qu'il y a derrière, comme si, je sais pas, c'est assez simple. Hein. Et ensuite, toutes ces pages sont analysées une par une pour amener une preuve à l'enquêteur. Voilà, sur la page, je sais pas, 17, il y avait un crime qui concernait ça. Sur la page 22, il y avait un crime qui contenait ça, etc. Et donc, ça permet d'accélérer le traitement de l'information, notamment pour fermer ces sites. C'est possible aujourd'hui de faire ça.
Oui, c'est possible techniquement et il faut que l'état de droit se dote des outils qui avalisent juridiquement ce qui est possible et souhaitable. Et c'est ça que c'est ce travail-là qui reste à faire pour que tout le monde puisse se dire « je sais que ce que je fais est légal et licite et en plus je sais que ça va servir la communauté ».
Et alors pour terminer cet échange, à part ce défi lié à l'OSINT, est-ce que vous identifiez d'autres défis qui attendent cette enquête sur ces éléments cyber et celui-ci vous semble être peut-être, si on devait en retenir un en propos fin de discussion, un des principaux?
Moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'explication. En fait, on n'arrive pas à emmener l'opinion publique avec nous sur des sujets comme la cyber. Parce que tout de suite, on fait face à un déluge de données, un déluge de textes, à des termes techniques, à des acronymes. Et pour le moment, la conscience du public français, qui est quand même meilleure que dans d'autres pays, bien sûr, elle est encore très faible. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de poursuivre et d'aller accélérer aussi la capacité de vulgariser, de sensibiliser, pour que vraiment ces sujets-là soient pas seulement des sujets d'experts, mais qu'ils soient des sujets de citoyens aussi basiques que des sujets du quotidien, en fait. Parce que, pour reboucler avec le tout début de l'émission et ce spot publicitaire qu'on a entendu, en fait, la cybercriminalité, c'est un problème du quotidien. C'est pas juste un problème d'experts. Et notre capacité aujourd'hui à aller chercher l'opinion publique pour lui rendre évidente ces questions-là, elle reste encore à parfaire. On doit progresser là-dessus.
Un grand merci du coup, à tous les deux d'avoir hautement contribué à cette plus que vulgarisation, cette sensibilisation sur ce sujet.
Merci beaucoup. Treasures are always lost. Pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with your moves tonight. Time is right. I think the blood is dry. It
Un extrait de la bande originale du jeu vidéo Cyberpunk 2077 qui nous immerge un peu plus dans un monde futuriste, dystopique, dans lequel la technologie coexiste avec une société humaine dégénérée. Immersion excessive, sans doute, mais pour terminer cet échange et pour faire le lien également avec une prochaine émission qui sera consacrée à la question cyber, mais cette fois sous l'angle des risques informatiques, des atteintes au système informatique, je vous propose pour finir une lecture de la quatrième de couverture du livre de Martin Unterzinger, Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille, publié aux éditions Grasset.
Le cyberespace était un sujet de série d'anticipation, un fantasme, une arrière-pensée. C'est aujourd'hui le lieu d'une guerre mondiale silencieuse, dangereuse et incessante. Berkeley, 1987. Des hackers redoutables pénètrent les systèmes informatiques de l'armée américaine. Iran, 2010. Un ordinateur s'éteint, le virus Stuxnet prend le contrôle à distance de dizaines de centrifugeuses et les détruit. France, 2017. Une opération d'espionnage ultra sophistiquée visant les hauts lieux du pouvoir est découverte. Dans ce récit élaboré au plus près du terrain, Martin Unterzinger nous plonge dans la grande histoire du cyberespace et ses petits secrets. On y croise une dame discrète arborant un collier de perles, chef du temple le mieux gardé de la NSA, un général d'armée anciennement pilote d'hélicoptère et espion, des chefs d'État, des diplomates, des hackers américains, russes, israéliens, mais aussi français. On y voit les plus grandes agences de renseignement et les meilleurs informaticiens se mobiliser. Car le cyberespace est un monde différent, agité d'une guerre sans limite, où les apparences sont trompeuses et les alliés qui se comptent sur les doigts d'une main peuvent, dans quelques frappes sur un clavier, se transformer en redoutables adversaires.
L'auteur aborde ici une dimension de la cybercriminalité dont on a peu parlé aujourd'hui. On est parti un peu dessus, mais on a peu approfondi. Également, question brûlante d'actualité, une cybercriminalité au service d'un espionnage massif, interétatique. Alors, est-ce que vous voulez réagir pour quelques mots de conclusion, oui. Marc Polman?
Avec grand plaisir. Espionnage interétatique. Telegram. Et pour moi, l'outil qui a été utilisé, qui est toujours aujourd'hui utilisé, malgré ce qu'on peut en dire, par des services de renseignement, j'aurais plutôt tendance à dire russe, pour obtenir des informations que les utilisateurs de Telegram ont partagées sur ce réseau social. Quelques exemples. Marina est une opposante à Vladimir Poutine qui, bien sûr, comme tout le monde sur la planète, se sentait protégée par Telegram. Mais a, comme par hasard, malgré ses échanges sur Telegram et les précautions qu'elle a prises, s'est fait prendre à son domicile par le FSB. Pourquoi ? Parce que lorsque j'utilise Telegram, je partage ma géolocalisation. Je dis que je suis en ligne et les mecs savent ce que je tape. Comment est-ce que sur un réseau qui est censé chiffrer la communication, le FSB peut me retrouver facilement. Deuxième piste, qui finance Telegram ? Il y a des oligarques derrière. Enfin, si on regarde la création de l'entreprise et qui a fourni le pognon pour créer l'ancêtre de Telegram ou Telegram, derrière, j'ai que des oligarques et des gens qui sont proches de Poutine. Il y a tellement de choses qui, lorsqu'on regarde dans le détail de la manière dont les gens ont pu réagir lors de l'arrestation de Pavel Durov, pourquoi est-ce que le ministre russe des Affaires étrangères a dit « mais il ne faut pas que ce mec soit emprisonné » ou si tout est protégé et si c'est un gars qui n'aime pas la Russie, pourquoi est-ce que ce gars réagit ? Pourquoi est-ce qu'un autre pays arabe qui finance aussi Telegram a réagi ? Alors on veut un truc d'espionnage, mais en voilà, hein, Telegram.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Michel Séjean, professeur en droit à l'Université Sorbonne Paris Nord, enseignant-chercheur en droit de la cybersécurité, directeur scientifique du Code de la cybersécurité, et Marc Polman, psychologue cognitif, président de l'association Point de Contact et fondateur de la société AETOS, également réserviste à l'Unité Nationale Cyber de la Gendarmerie Nationale. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot à Rongo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.